Et nous poursuivons cette découverte de l'univers des pompiers hein, toute cette semaine installé au centre de secours Martial Mitou ici à Limoges, le SDIS 87. Avec nous Olivier Guyonnet qui est pompier professionnel. On est toujours là au cœur de la cour de ce centre de secours et j'entends que ça bip. On précise simplement que dans l'image peut-être de ceux qui nous écoutent, il y a ces fameuses interventions et on se dit il y a une grande sirène qui va résonner dans toute la caserne, on ne va plus s'entendre parler. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça aujourd'hui.
Non, alors les sirènes ont disparu. Même des villages, il y en a encore, hein. je crois qu'il y a encore des villages où la sirène retentit.
Ça sonne plutôt pour le premier mercredi du mois maintenant, la sirène.
Oui, voilà. Mais en plus, il ne faut pas oublier que les sirènes pouvaient être assez traumatisantes pour des familles. La sirène sonnait à 2h du matin dans le village et on pouvait toujours imaginer que c'était quelqu'un de proche qui était impliqué dans cette opération. Donc aujourd'hui, non, on a tous des bips qui sont accrochés à la ceinture et on est déclenché avec ce petit matériel.
On va peut-être parler du planning, Olivier Guyonnet. Planning type, s'il peut y en avoir un, évidemment, on se doute bien qu'il y a un peu l'imprévu ici, les départs qui peuvent avoir lieu un petit peu n'importe quand, mais est-ce qu'il y a des grandes règles sur la journée d'un sapeur-pompier ?
Ah bah oui, les règles sont bien établies. Donc la garde commence à 7h30, c'est-à-dire qu'à 7h31, le bip peut sonner. Voilà, on doit être opérationnel, donc on doit être sur la caserne. On a le rapport à 8h. Donc le rapport, c'est les 15, 16, 17 pompiers qui sont de garde sur cette journée se rassemblent avec le chef de garde, qui est un adjudant, et qui va établir, alors on appelle ça nous les piquets.
Les piquets d'incendie, donc alors voilà. On l'a déjà dit, on n'est pas vraiment uniquement sur l'incendie, bien au contraire.
Voilà, mais les piquets, c'est-à-dire notre piquet, alors mon piquet aujourd'hui, moi je suis de fourgon incendie et je suis aussi de camions interventions diverses et puis quelques autres camions qui sortiront moins mais qui peuvent partir. Donc chaque jour, le chef de garde à 8h va énoncer la feuille de garde et donner à chacun son véhicule qui lui est attribué. De 8h à 8h30, on vérifie tous les véhicules qui nous sont attribués. Il faut que le véhicule il puisse partir à tout moment. Donc tout bêtement, on va le démarrer et on va tester le matériel qui est à l'intérieur. Tous les matins, ça c'est indispensable, que les pleins soient faits, qu'ils soient propres et qu'il n'y ait pas un pneu crevé, que tout le matériel qui est dessus fonctionne. À 9h moins le quart, on part pour la séance de sport. Alors la séance de sport du matin est plus liée à du sport de type foncier. On va courir. Où on va faire, alors si vraiment il fait pas beau, on va faire un sport en salle, dans le gymnase. On a aussi la possibilité d'aller à Beaublanc à la piscine. Faut pas s'imaginer qu'on va nous demander d'être un sportif de très haut niveau. On demande d'être entraîné, d'être quand même sportif. Et de toute façon, on a des tests annuels. On doit être capable de faire quelques performances.
Et quel type hein ?
On a le test de Luc Léger, c'est un test d'endurance avec des bips qui s'accélèrent, on doit aller de plus en plus vite et on passe des paliers. Et voilà, et à tel âge, on doit être capable de faire tel palier. Et on a les tests de souplesse, on a des pompes à faire, on a le test de gainage, être capable d'avoir, ça veut dire qu'on a des abdominaux. On a le test de Kili, c'est-à-dire c'est la chaise, on est contre un mur avec les jambes à 90 degrés et on doit tenir un certain nombre de minutes. Bon, tout ça permet à nos chefs et aux services de santé du SDIS de voir si les sapeurs-pompiers sont assez en forme pour partir en opération. Et j'ai envie de dire que bien souvent, le pompier lui-même s'entraîne parce que sur un feu, la chaleur, le stress, l'appareil respiratoire qu'on a sur le visage nous demande d'être vraiment quand même en bonne condition physique. Donc c'est les séances de sport servent à ça. Donc on a fini le sport vers 10h30. On enchaîne sur les manœuvres. Tous les matins, on a des manœuvres. C'est des répétitions sur les gestes à accomplir sur les opérations.
Donc ça change tous les jours.
Ça change tous les jours. Ce matin, on avait manœuvre relevage d'une personne avec une fracture, par exemple. Voilà, ça, c'était le thème de la manœuvre. Et on est validé chaque jour sur ce que l'on réalise ou pas. On a aussi les manœuvres incendie, donc être capable d'établir le plus vite possible des lances à incendie sur un sinistre avec des consignes à faire suivant le chef du véhicule.
Ça vous occupe toute la fin de matinée.
Voilà. De midi à 14h, on a une pause. Alors, je dis on a une pause, c'est que ça, on peut aller manger, sauf si le bip sonne. Là, on s'en va, évidemment.
Ça bip avant le premier coup de fourchette, malheureusement, on arrête tout.
Malheureusement, on arrête tout. Hein. C'est pas je finis mon steak, il était bien cuit et tout ça. Non, c'est tant pis, on s'en va. C'est comme ça. Ça arrive fréquemment. Mais c'est aussi, on est sous la douche après le sport et ça bip. Donc, faut vite finir la douche et on s'en va.
Vous avez droit à combien de temps, grosso modo, entre le bip d'intervention et le moment où il faut être dans les véhicules?
C'est une minute pour que ça parte, quoi. Donc, alors, ça peut être un petit peu plus long sur le camion incendie parce qu'on doit mettre en plus la tenue de feu. La tenue de feu, c'est un surpantalon, c'est une grosse veste, c'est une cagoule de feu, c'est le casque, c'est les gants. Donc, tout ça, ça peut être un peu plus long.
Et ça, comment vous savez quel est le type d'intervention?
Alors, il y a en fonction du poste qui nous est attribué, évidemment. Mais sur le bip, il y a un petit message. Donc c'est départ FPT, départ VSAV, c'est indiqué, donc on sait.
Alors si tout va bien, vous mangez?
Là, on mange. À 14h, c'est la reprise des hostilités, donc c'est à nouveau un rassemblement avec le chef de garde. De 14h à 14h30, on fait un brin de ménage de la caserne, ça va être nettoyer les salles, nettoyer les coursives, nettoyer la cour de manœuvre, enfin plusieurs activités qui sont liées à l'entretien de la caserne. Et une fois qu'on a fini les petites corvées journalières, on va faire ce qu'on appelle travaux dans les services. Alors les services, ça va de la mécanique. Il y a le service mécanique, il y a le service tuyaux, réparer les tuyaux, créer les plannings de garde, ça c'est un service. Multitude de services qui sont liés à la caserne et on doit effectuer quelques travaux jusqu'à 17h. À partir de 17h, il y a à nouveau sport et c'est sport co.
Voilà. Là, c'est plus quoi? C'est pour relâcher un peu la pression?
Oui, et puis se retrouver et tout ça, et puis une cohésion de groupe, parce que les interventions ne sont pas toujours simples. Donc, qu'il y ait une vraie cohésion, c'est important. Chez les pompiers, il y a un esprit de famille, il y a une cohésion qui est quand même largement supérieure que ce qu'on peut voir quotidiennement autour de nous. Chez les pompiers, on peut parler quand même d'une famille et d'un esprit de corps.
Et l'univers des pompiers que nous découvrons depuis le début de cette semaine avec nos invités, notamment Olivier Guyonnet. Je rappelle que vous êtes pompier professionnel ici sur le centre de secours Martial Mitou. Nous sommes à Limoges, nous sommes donc au cœur du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne. La question évidemment qu'on peut se poser, c'est est-ce que un sapeur-pompier professionnel comme vous a le même programme qu'un sapeur-pompier volontaire, comme on va aller le voir avec Régis, qui est l'un des volontaires ici?
Non, on n'a pas le même nombre de gardes, hein. Nous, c'est notre métier, pour plusieurs raisons. Alors, un pompier volontaire est là pour renforcer la caserne des professionnels. Donc, un volontaire va faire 2, 3, 4 gardes par mois de 24 heures, suivant ses disponibilités déjà, parce que le volontaire a bien souvent une activité, il peut être étudiant, mais il peut être aussi dans une entreprise. Et puis, il y a des limites qui ont été posées pour le monde volontaire dans nos casernes professionnelles. Tout simplement parce que le volontaire, il est posté à la caserne, donc il est payé pendant sa garde de 24 heures. Et ça peut être le piège pour un jeune, se dire, ben voilà, je fais 10, 12 gardes dans le mois, 15 gardes, et puis je vis intégralement de ça. Sauf que quand on est pompier volontaire, on a une petite rémunération qui définit ce travail. Mais pour autant, on ne cotise pas. Donc c'est vite un piège en fait. Donc on limite largement le nombre de gardes et c'est important.
Alors on va aller voir qu'est-ce qui motive un volontaire pour rejoindre ce corps des sapeurs-pompiers avec Régis qui nous attend donc dans les étages. Régis Malhiver avec nous. Alors vous êtes pompier volontaire. On a toujours l'impression que volontaire, c'est quoi? C'est le début finalement. On est volontaire au démarrage, le temps de devenir professionnel. Ça se passe pas du tout comme ça.
Non, voilà, tout à fait. C'est un tremplin pour le concours. Ça permet de les mettre un peu dans le bain, de savoir un peu ce que c'est au niveau volontaire. D'autres personnes peuvent avoir aussi quelques difficultés pour passer le concours professionnel de par leur travail. Peuvent se répercuter en fait sur le volontariat.
Alors vous, à titre personnel, ça fait déjà quelques années que vous êtes pompier volontaire. Pourquoi ce choix?
Alors moi, à Limoges, ça fait 14 ans que je suis volontaire à Limoges. J'ai jamais eu trop la chance de pouvoir passer mon concours professionnel parce que bon, je suis technico-commercial. Donc bien sûr, mes heures de pompier, c'est en dehors du travail. Donc pour moi, c'est avoir le plaisir de monter, comme on dit, dans un camion rouge.
C'était un vrai rêve de gosse.
Voilà, tout à fait. Je crois que c'est comme tout le monde. Hein, c'est un rêve d'enfant. Que je n'ai pu faire à mon jeune âge, bon, parce que actuellement j'ai 40 ans, J'ai pas pu faire ça à mon jeune âge parce qu'à côté de chez moi, j'étais bien trop loin de la caserne. Donc c'est pour ça qu'en fait, maintenant arrivé sur Limoges, j'ai pu faire un peu ce rêve de gosse que depuis longtemps.
Mais ça veut dire que c'est gérable tout ça ? On se dit une carrière professionnelle à part entière et rajouter dans son temps libre pompier volontaire, ça doit être un rythme absolument infernal.
Bon, c'est assez difficile à gérer tout ça parce que bon, le volontariat, il y a quand même pas mal d'heures à effectuer, aussi bien en garde postée, en astreinte, en recyclage, en formation. Donc le volontariat, vraiment, c'est sur nos horaires de libre. On va amputer ça sur la vie de famille, sur nos loisirs. Donc il faut vraiment que ce soit une passion.
C'est quelque chose qui pèse sur l'entourage, qui n'est pas, lui, baigné dans cet univers-là.
On va dire c'est une petite soupe qu'il faut faire en famille. C'est au conjoint de faire la part des choses. Nous aussi, de faire la part des choses, il faut essayer de marier tout ça. C'est vrai que c'est assez complexe, des fois. On voudrait un peu plus de temps pour nous, pour notre famille. Bon, après, c'est une gestion du temps.
C'est concrètement combien de temps consacré aux pompiers chaque mois ?
Ça représente environ 3 à 4 gardes de 24 par mois, plus une demi-journée de formation, de recyclage. Ensuite, une semaine d'astreinte toutes les 6 semaines.
Et concrètement, dans ce que l'on vous demande, c'est exactement la même chose que les actions d'un pompier dit professionnel ?
Voilà, tout à fait. Il faut que, en fait, dans un camion, les personnes ne voient pas la différence entre un volontaire et un professionnel. On a le statut qui diffère, mais le travail accompli doit être le même. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette au niveau des pompiers professionnels. On a une formation quand même, bon, qui est assez poussée. Se mettre aux nouvelles méthodes de secourisme, se mettre à la pointe, comme les pros. Il faut suivre un peu la vie des professionnels.
Et c'est facile ?
Pas toujours facile parce que bon, c'est vrai que ils baignent, on va dire, toute l'année dedans. Donc, c'est s'entraîner un petit peu, venir pendant les périodes un peu plus calmes, demander. Et puis, toute façon, on est très bien épaulé par les pompiers professionnels qui nous expliquent si on a des lacunes ou des choses comme ça.
Alors, on va peut-être se déplacer un peu puisque je sais qu'au bout du couloir, il y a ce qui permet un peu de décompresser au quotidien.
Limoges, on dispose d'un gymnase qui nous permet de faire du sport. De renforcer la cohésion entre professionnels, volontaires, et puis aussi de décompresser parce que bon, forcément, toutes les interventions ne sont pas forcément agréables à faire. Donc c'est un moyen de se vider la tête. Ça nous permet aussi de nous tenir un peu à un bon niveau.
Alors si on tire sur la porte, là, on l'entend nous déjà. Donc voilà, ça c'est le moment, c'est le petit plaisir de se retrouver ici. Mais ça veut dire que là, on est en pleine partie de foot. Mais ça veut dire qu'à tout moment, les bips peuvent retentir et on doit se remettre en intervention, se remettre en condition pour une intervention peut-être difficile.
Voilà, tout à fait. Dès que ça sonne, fini ou pas fini, on est obligé de sauter dans nos Rangers.
Ça veut dire qu'on arrive à déconnecter. Là, on a l'impression d'une partie de foot entre potes, finalement, comme on en voit un peu partout. Et finalement, quand même, il y a toujours à l'esprit cette possibilité qu'en une minute, il faut être sorti de la caserne pour intervenir. C'est facile de gérer les deux.
De toute façon, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Voilà, c'est le challenge toujours pareil. Partir dans le plus bref délai. Hein.
Bon, je vois que l'équipe est en difficulté, je vais pas vous retenir plus longtemps et je vais vous laisser replonger dans le match. Merci en tout cas.
Merci bien.
On poursuit notre balade au cœur de l'univers des pompiers. Nous sommes toujours avec Olivier Guyonnet, ici au centre de secours martial MeToo, à Limoges, le SDIS 87. Et là, on est véritablement à côté de ce qui fait sûrement rêver les petits garçons. Ce sont les fameux camions de pompiers. Qui n'a pas, en tant que petit garçon, collectionné les camions de pompiers et joué aux pompiers en étant petit? Alors, les véhicules, on dit le camion de pompiers, mais évidemment, il y en a beaucoup. Combien d'engins sur l'ensemble de ce centre de secours?
Oh, je dis une vingtaine. Alors, des engins motorisés, peut-être une quinzaine, mais on a aussi des berces. C'est des bennes qu'on vient mettre sur un porte-benne. Ça évite d'acheter des véhicules roulants avec des moteurs. On a juste des berces et on n'a qu'un porte-berce.
Voilà. Qui servent à plusieurs choses.
Qui servent à plusieurs choses pour des véhicules très spécifiques et qui sortent peu. Hein, donc, on a une berce post-médicale avancée, c'est-à-dire c'est un hôpital de campagne sur un gros plan rouge. Oui. On a aussi des berces d'électroventilation qui permettent de faire beaucoup de ventilation sur un incendie et qui permettent aussi de regonfler les bouteilles qui nous servent à respirer dans les fumées. Et on est juste à côté d'ailleurs d'une autre berce qui sert peu, hein, c'est sur les feux d'hydrocarbures. C'est une grosse bonbonne remplie de produits gélifiants, ça ressemble un petit peu à du gel douche. Donc quand ce gel douche, on va le mélanger à de l'eau et de l'air avec une pression bien définie, ça va nous faire énormément de mousse. Et sur les feux d'hydrocarbures, un feu d'hydrocarbures ne s'éteint pas avec de l'eau, ça s'éteint avec de la mousse. Voilà, et donc on va utiliser cette berce.
Pour notre prochaine soirée mousse, je garde évidemment donc vos coordonnées. Chacun a sa fonction, et ça par exemple c'est un camion qui est très spécifique au centre ici à Limoges que tout le monde n'a pas.
Oui, ici ça c'est le VIRT, véhicule d'intervention au risque technologique. Alors c'est un véhicule qui va être déclenché sur une pollution liée à un gaz, à un produit toxique.
Il y a une pollution de rivière, par exemple.
Pollution de rivière. Donc, on a du matériel pour pouvoir détecter le produit, pour pouvoir aussi le canaliser, pour pouvoir le récupérer et faire en sorte que la nature s'en tire le mieux possible. Ne pas oublier que nos missions, c'est assistance aux personnes, aux biens. Donc, on peut intervenir sur des inondations, sur des tempêtes. On n'oubliera pas celle de 99 pour le département. Les pompiers ont été très sollicités. Les animaux aussi. Et depuis une quinzaine d'années, était rajouté aussi l'environnement.
D'autres véhicules à côté, on a parlé notamment dans ces rendez-vous de la plongée, par exemple. Vous êtes aussi équipé ici ?
Oui, alors ici, il y a une quinzaine de plongeurs qui sont tous les jours. Il y a au minimum 2 plongeurs pour pouvoir faire une première intervention d'urgence pour aller secourir quelqu'un dans l'eau. Alors on dit plongeurs, effectivement ils sont plongeurs subaquatiques, mais ils sont aussi capables d'évoluer sans bouteille, en surface, dans du courant, dans des rivières comme la Vienne en période de crue, pour pouvoir aller récupérer quelqu'un qui est en train de se noyer. Donc voilà, donc c'est tout ce qui est le milieu aquatique, donc c'est un bateau et aussi des bouteilles pour pouvoir aller rechercher quelque chose sous l'eau.
Et d'autres types de véhicules, on marche, donc on passe devant des véhicules qui sont très différents, toujours très imposants.
Oui, là on a un camion qu'on appelle le FPDHR, alors toujours des abréviations, fourgon dévidoir qui est capable d'aller en hors-chemin. Tous les chemins et toute la campagne n'est pas couvert de poteaux incendies. Donc là, ce camion, il a tout simplement une pompe et 2 km de tuyaux qui sont roulés à l'intérieur. La pompe, on va la mettre à côté d'un étang et on va tirer jusqu'à 2 km. On est capable de tirer jusqu'à 2 km de tuyaux pour aller au sinistre et envoyer de l'eau. Hein, parce qu'un camion incendie n'est pas capable de cracher de l'eau plus de 15-20 minutes. Hein. Au-delà, sa réserve est épuisée, donc il faut amener de l'eau autrement. Donc soit on fait venir de l'eau avec des tuyaux, soit on a des porteurs d'eau, des gros porteurs d'eau de 11 000, 10, 11, 12 000 litres d'eau et qui font des norias. Voilà, qui vont tourner pour re-remplir les camions qui sont sur le sinistre.
Si je suis particulier, j'ai un petit étang privé, vous avez tous les droits effectivement pour venir pomper l'eau de cet étang s'il y a un besoin dans un secteur de 2 km.
Alors si c'est un étang, ça va pas avoir une incidence énorme de pomper de l'eau pendant même 5-6 heures, hein, ça va pas avoir une incidence énorme. On a aussi le droit de prendre l'eau qui est dans les piscines. Et donc là par contre ça peut avoir une incidence parce qu'on peut la vider assez rapidement, mais on a le droit de prendre l'eau dans les piscines.
Puis, quand on parle des pompiers, il y a aussi le fameux camion, la grande échelle. Ça, c'est aussi quelque chose qui se trouve sur ce centre de secours.
Oui, il y en a une ici. Il y en a 3 sur Limoges qui sont à peu près de taille différente, même si c'est ici la plus haute. Elle fait 35 mètres.
C'est-à-dire que concrètement, quand on déploie l'échelle, c'est une chose, mais quand le pompier, lui, va devoir escalader cette échelle, quelle sensation quand on est là-haut ?
Alors, on l'escalade de moins en moins quand même, hein. faut être honnête, tout simplement parce que les échelles ont évolué. Et aujourd'hui, on le connaît tous, hein, au bout de l'échelle, il y a tout simplement une nacelle. Donc, on monte dans la nacelle et après, on va dans les airs.
Je me dis que même dans la nacelle,
effectivement, il faut pas... Il faut savoir qu'au concours des pompiers professionnels, il y a un test qui permet de voir si les gens ont tout simplement le vertige. Voilà, on va passer sur une espèce de poutrelle à 3 mètres de haut, et les gens qui sont vraiment terrorisés par le vertige, ils sont pas capables de le faire. Donc voilà, ça permet de détecter.
Ça veut dire que c'est éliminatoire direct pour tous les pompiers, quoi qu'il arrive.
Ah bah oui, si derrière on a un collègue qui est blessé ou plus sur un incendie au 6e étage et qu'il faut aller le chercher avec l'échelle, eh bien là il faut que tout le monde soit apte à aller chercher son collègue quand même, c'est un minimum.
Et la grande échelle, elle sort encore régulièrement, on dit que les incendies ne sont pas très fréquents, alors du coup est-ce que ce camion grande échelle est encore fréquemment utilisé?
Alors il va être utilisé, oui, toujours. Des interventions qui augmentent beaucoup, c'est les personnes ne répondant pas aux appels. Le voisin ou les voisins n'ont plus entendu parler de cette personne depuis quelque temps, ou le téléphone ne répond plus. Et donc nous, on va utiliser l'échelle, la grande échelle, pour aller dans les étages, casser le carreau et pénétrer dans l'appartement pour voir si tout simplement la personne est là. L'échelle sort beaucoup pour ce genre d'intervention.
Et on poursuit cette incursion dans l'univers des pompiers, toujours accompagné de notre invité pompier professionnel Olivier Guyonnet, toujours ici au centre de secours Martial Mitou à Limoges. Là, on est à côté de ce symbole évidemment des pompiers, c'est le camion et la grande échelle. On est dans une remise avec les fameux casiers. On imagine toujours dans cette image le départ, les pompiers qui se précipitent dans leur casier pour s'habiller. Et on dit qu'évidemment chacun a une mission particulière, mais c'est encore plus vrai même à l'intérieur des véhicules, puisque que chaque siège a sa fonction et on sait où on doit s'asseoir et donc ce qu'on doit faire.
Ah, tout à fait, hein. Chaque personne a un poste et un rôle bien défini. On arrive sur l'incendie, on s'amuse pas à descendre et aller voir ce qui se passe.
Non, qu'est-ce non, que non. Tu veux faire et
voilà,
toi
non, ouais. C'est pas comme ça, c'est le chef va voir le feu. Il fait un premier regard et tout ça, et il va mettre en place une manœuvre qu'il aura définie dans sa tête le plus rapidement possible, et après il a juste à dire on va établir telle lance. Et chacun sait exactement le matériel qu'il doit prendre. C'est telle personne qui prend l'échelle, c'est telle personne qui prend le tuyau, c'est telle personne qui prend la lance, et ainsi de suite. Donc ça, c'est bien défini. Mais on ne descend pas du camion. On descend du camion quand le chef l'a dit et quand il a donné sa mission. Parce qu'autrement, c'est du grand n'importe quoi. Le chef, après, va nous chercher partout et l'intervention se fait mal. Donc c'est pour ça que tout est bien défini en amont.
Et donc là, on part sur ce camion, par exemple, 6 voire 8 personnes.
Voilà, c'est 6 ou 8. En sachant que il y a 6 personnes qui sont potentiellement sous appareil respiratoire. Donc on disait tout à l'heure qu'on vérifiait le plein d'essence, le plein en eau du véhicule, mais on vérifie aussi le plein d'air dans la bouteille. Tous les matins, la bouteille est vérifiée, sa pression est vérifiée. Il faut qu'elle soit toujours gonflée à bloc. On a une bouteille assez lourde dans le dos. On est capable de tenir entre 20-30 minutes, suivant les personnes, avec cette bouteille. Et il y a des systèmes d'alerte. Si la personne tombe dans l'incendie et ne bouge plus, il y a un système d'homme mort, par exemple. Les autres à l'extérieur sont prévenus.
Le risque également, qui est évidemment intimement lié à ce métier de sapeur-pompier, c'est quelque chose avec lequel on vit forcément au quotidien. Comment on fait? On essaye de s'en détacher, faut toujours l'avoir à l'esprit et parfois on est rattrapé par ce risque.
N'oublions pas que des pompiers sont morts sur la route.
En allant à une intervention.
En allant sur intervention, mais aussi sur une autoroute, on intervient et on peut être fauché sur la route. Bon, le gros des accidents, c'est quand même l'incendie. Un incendie, à notre arrivée, peut couver. Et nous, on arrive, si on ne prend pas les précautions, on peut avoir une explosion. Donc, c'est arrivé, ça m'est arrivé et ça rappelle à l'ordre. C'est quand même rare, mais ça arrive. On a tous les ans des accidents dramatiques sur les incendies. On y pense, effectivement, on y pense. Je pense que on est aussi entraîné pour ça et on est régulièrement sensibilisé au risque des incendies. Les maisons sont de plus en plus étanches, donc les feux vont couver plus souvent. Ça fait comme des cocottes minutes. Et il suffit que nous, on ouvre une porte trop rapidement, de l'oxygène arrive soudainement et là, ça peut entraîner une explosion. Hein, on a entendu parfois ce nom, le backdraft. L'explosion des fumées qui peuvent entraîner des drames. C'est quand même un métier où on ne peut pas tout prévoir et c'est souvent l'expérience et chaque intervention est différente. Et alors ça, c'est vraiment une grosse particularité et qu'il faut s'adapter à chaque fois. Hein, l'intervention s'est passée très très bien le lundi et vous savez pas pourquoi, le mardi avec une autre donnée en plus, l'intervention pourrait se passer très mal. Voilà, donc il faut s'adapter à chaque fois, être assez réactif. Je crois qu'aussi une grosse qualité, une qualité importante à avoir aussi, c'est du sang-froid. Hein, la panique, c'est vraiment l'ennemi de notre métier. Voilà, des fois on part sur accident simple, Moi, j'ai souvenir d'un accident où, sur le ticket, c'était 23h, 23h30, ou minuit peut-être, mais enfin, bon, accident simple. Donc, on y va et on imagine un petit accident, un petit accrochage et tout ça. Et on arrivait, il y avait une voiture en feu et il y avait plusieurs victimes décédées dans cette énorme intervention. Donc voilà, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc, il faut quand même toujours suspecter le pire et donc accélérer le rythme.
C'est-à-dire, c'est aussi le travail d'équipe, c'est faire confiance à son coéquipier, à ses partenaires.
Ouais, là, il y a, mais, plus l'intervention est dure et plus les liens se resserrent entre chaque collègue. Donc je le répète, on a quand même un esprit de corps qui est vraiment important de chez nous. Donc c'est appréciable. Et souvent on dit oh là là, qu'est-ce que ça doit être dur et tout. Oui, c'est dur, mais on met aussi des barrières. On ne peut pas pleurer à chaque drame de la vie. C'est impensable, au même titre que les infirmières ou que les médecins au centre hospitalier. On met une barrière. Et pour nous, ce sont des inconnus et il faut d'abord faire l'intervention. On n'est pas là non plus pour pleurer et larmoyer à chaque opération difficile quand même.
Et puis, quand on arrive ici, c'est vrai qu'on s'attend au camion rouge des pompiers, évidemment. Mais il y a un autre camion rouge qui tape un petit peu dans l'œil. On se demande le rapport. Visiblement, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est que c'est le Team 18, Team Sapeurs-Pompiers. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est un camion qui est dans la caserne et qui reçoit l'hospitalité du chef de centre de la caserne, donc c'est fort sympathique. Il y a 15 ans, une écurie s'est montée au sein de cette caserne pour faire les 24 heures du Mans, le bol d'or.
Donc moto,
ça n'a rien à voir avec l'opérationnel. C'est parti de cette caserne.
Les activités se poursuivent malgré notre présence.
Donc là, voilà, on participe depuis 15 ans à ces grandes manifestations de la moto, ces grandes fêtes de la moto. Et puis on a au fur et à mesure grossi, on a pu acheter un camion très représentatif du sport moto. Et c'est avec ce camion qu'on se déplace dans l'ensemble de l'Europe, parce qu'on fait aussi des courses en Espagne, en Allemagne. Et on va même jusqu'au Qatar. Cette année, on va faire la cinquième année au Qatar. Voilà.
Et mine de rien, on dit que ça n'a rien à voir avec les pompiers, mais c'est quand même aussi donner une autre image des pompiers, peut-être, sortir de ce côté drame, feu, accident.
Oui, et puis se retrouver au sein de cette famille pour faire une activité. Alors, c'est vrai que là, le Team 18, il représente les soldats du feu dans le monde entier, hein, vu qu'on va jusqu'au Qatar. Et on va jusqu'au bout de notre logique, c'est-à-dire que la moto, elle est rouge, et depuis 15 ans, on a le numéro 18 sur la moto, voilà.
Et un nouveau rendez-vous, toujours installé ici du côté de la caserne Martial Mitou. Nous sommes à Limoges et nous sommes immergés depuis le début de la semaine dans cet univers des pompiers au cœur du SDIS 87, ce service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne. Toujours en compagnie d'Olivier Guyonnet, je rappelle, pompier professionnel depuis une vingtaine d'années maintenant. Alors là, ça bipe à l'instant, ça veut dire intervention ?
Oui, donc on va aller au standard rapidement pour aller voir ce qu'il en est.
On va constater le mode de fonctionnement effectivement d'une intervention type quotidienne ici.
5047. Et lieu dit comment déjà ? 5047, 360.
Oui, c'était là.
Donc là, c'est vers là.
On peut le constater, effectivement ça va très vite en cas d'intervention, le bip a sonné et on avait dit une minute, je vous le confirme, en une minute on est déjà dans la voiture et on part sur une intervention. Alors on rappelle brièvement comment ça se passe, c'est pas la fameuse grosse sirène comme tout le monde l'imagine peut-être, c'est le petit bip qui est accroché à la poche et qui bip les équipes qui sont concernées par le type d'intervention.
Oui, donc là on a deux véhicules au départ en renfort sur le centre-ville, avenue Garibaldi. Donc on a une notion d'un accident, un scooter qui aurait renversé un piéton. On n'a pas de notion de gravité, nous avons que ça comme élément.
C'est-à-dire que là, on fait quoi ? On essaye de s'imaginer que ça peut être grave et que ça le soit moins. Finalement, il faut partir un petit peu armé, on va dire, psychologiquement, sur ce qu'on peut découvrir sur place quand c'est un accident de la circulation.
Bon, on peut imaginer qu'un scooter avec un piéton, il peut y avoir des blessures graves, mais c'est quand même moins lourd et moins imposant qu'une voiture. Donc ça va être la découverte. On ne sait jamais sur quoi on va tombé.
Et alors, on pourrait rien cacher aux auditeurs, il faisait très beau quand on a commencé ce reportage. Là, le temps a viré, on a eu de la pluie, on a un risque d'orage. Ça, c'est aussi des éléments qui font qu'on se dit que la journée risque d'être un petit peu plus compliquée que traditionnellement, ou ça n'a rien à voir?
Des gros orages peuvent amener des interventions type opérations diverses, inondations de caves, de maisons et autres. Et c'est vrai que là, les premières pluies du matin après 15 jours de beau, en général, on est à peu près sûr de faire un accrochage. Pas systématiquement grave, mais on est à peu près sûr de faire des accrochages. Voilà. Donc voilà, on est arrivé sur place et il y a apparemment une victime qui est par terre. Les véhicules se placent stratégiquement, l'ambulance à côté de l'accident et, très important, le véhicule de secours routier va protéger l'ambulance et le site pour qu'il n'y ait pas une voiture qui vienne percuter les personnels qui sont déjà en train de porter les secours.
Attention à la chute.
Ça va, madame?
La cheville. Ouais, c'est la cheville qui lui fait mal. Vous me dites si ça vous fait mal, là, quand ils vont s'y
aller. Allez, on va vous prendre à plusieurs, madame, là. Et on va vous soulever.
Équipier, vous prêt?
Il est prêt.
Bassin prêt.
Attention pour lever. Levez. Envoyez brancard. Voilà. Posez.
Quand vous voulez, pour coquiller. Attends, c'est bien.
Ouais. Vas-y.
Vous coquillez, hein, David.
Alors on va quitter cette première intervention nous concernant de la journée. Ça, c'est aussi le quotidien, finalement, accident de voie publique, accident corporel. Donc là, en l'occurrence, en réelle gravité. Ça, c'est pas vous qui faites le diagnostic? Comment ça se passe?
Si. Alors nous, c'est des suspicions. Le bilan est passé au médecin du SAMU et automatiquement, on l'informe des suspicions que nous avons. Mais là, on avait une personne qui se pliait de douleur au niveau des jambes, au niveau des poignets. Donc on peut suspecter des fractures. On a vu que derrière, il y a tout aussi un travail de la police pour enquêter.
Votre mission à vous ne va pas jusque-là?
À aucun moment, on intervient dans l'enquête. Hein. Ça, c'est pas notre mission.
Et on va voir que vos activités vont bien au-delà des accidents corporels, puisqu'on va déjà partir immédiatement sur une nouvelle intervention d'un tout autre type.
On va partir, mon chef.
Alors là, on a quoi comme élément sur l'intervention vers laquelle on se dirige?
On a une adresse, hein, tout simplement, dans Limoges. Apparemment, c'est un malaise sur un lieu de travail. Et alors, en plus, en même temps que je suis obligé de parler au micro, je conduis, donc c'est pas évident. Et voilà, on est arrivé sur le lieu de l'intervention et on va voir un petit peu de quoi il s'agit.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe, madame?
Vous la connaissez bien ou...
Vous m'entendez?
Je suis pas son moniteur principal.
Non. Madame! Oh madame, c'est un pompier, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mangé à midi ou pas?
Vous êtes suivi pour quelque chose?
C'est quel type de diabète que vous avez? En ce moment, vous êtes un peu plus tracassé, vous m'avez dit. Est-ce que vous le voyez beau?
Ouais, vous êtes beau et lui aussi, tout le monde.
Non, mais c'est que ça va pas alors. C'est votre malaise qui vous fait voir comme ça.
On l'a vu. Olivier, là on est sur de l'assistance à personne, c'est ce qui représente le plus gros des interventions pour les pompiers aujourd'hui?
Assistance à personne, c'est 60% de nos interventions.
Votre rôle, c'est aussi de dédramatiser, de dégoupiller un petit peu la tension?
Bah, tout à fait, là on est arrivé sur une personne qui a fait un petit malaise, sur des petits malaises comme ça, et un médecin privé peut très bien faire le travail sur site pour solutionner l'intervention, quoi.
Quand on revient d'une intervention beaucoup plus lourde, d'un accident de la route qui s'est montré mortel, on déconnecte, on y arrive, ou c'est quelque chose qui va marquer pendant un petit moment?
C'est propre à chacun, on peut pas dire qu'il y a des règles. Alors c'est sûr qu'un accident dramatique, ça reste dans les mémoires, mais pour autant, plus c'est grave, j'ai envie de dire, et moins on reste seul. Un accident grave, et ben on rentre à la caserne, et puis au lieu de rentrer chacun dans son petit coin, dans sa petite chambre et tout ça, et ben on va rester ensemble. On va aller prendre un coca, on va aller prendre un Perrier ensemble, Ça peut être à 2-3 heures du matin, et combien de fois moi j'ai vu rester dans les remises pendant 2 heures à refaire le monde, à parler de tout et de rien. Mais ça permet de relâcher la pression et de dédramatiser, puis de parvenir, de pas rentrer chez soi avec des images fortes.
Et c'est là où on retrouve l'esprit de corps véritablement.
Ah, complètement. Et puis on a aussi tout au long de notre carrière, on a un accueil qui est à 99% plus que positif. Les gens sont quand même contents, on a quand même la cote auprès de la population en France, et donc c'est quand même plein de belles rencontres, et on est là pour assister les gens, les secourir, les dépanner, et c'est un très beau métier, et aussi un très bel engagement. C'est une très belle aventure à faire.
Donc vous êtes reparti pour 20 ans de mieux?
De toute façon, oui, je vais aller jusqu'à la retraite. Voilà, encore 20 ans, la caserne.